Je réalise de plus en plus que ce n'est pas tous les chrétiens qui vivent une vie chrétienne palpitante. Et en tant que pasteur, il m'arrive parfois de me poser certaines questions qui commencent par le mot « pourquoi ». Pourquoi plusieurs chrétiens semblent vivre dans l'échec constamment? Pourquoi certains chrétiens, certaines chrétiennes, arrêtent de progresser dans leur vie spirituelle? Pourquoi certains enfants de Dieu n'atteignent jamais la maturité spirituelle voulue par Dieu, désirée par Dieu pour leur vie? Pourquoi certains enfants de Dieu semblent être constamment confrontés à des blocages, des embûches, des difficultés de toutes sortes? Pourquoi certains chrétiens semblent même parfois si malheureux? Alors que je constate ces réalités chez certains chrétiens, je réalise qu'il leur manque assurément quelque chose. Un élément, une clé, une vérité. Jésus disait, ça ne fonctionne pas. On va juste remettre le PowerPoint. Puis je vais te dire quand y aller. Merci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais quelle est cette vérité à connaître et qui peut vraiment faire en sorte de cesser de vivre dans l'échec, de cesser d'être stagnant spirituellement? Quelle est cette vérité qui fait en sorte que, qui peut nous aider à atteindre la maturité spirituelle et aller au-delà de nos blocages et ce qui peut parfois aussi nous rendre si malheureux? Ce matin, on va débuter une série de messages que j'ai intitulé « Comment, on peut mettre la prochaine diapositive, comment être saisi par le Saint-Esprit en 2009? » Vous savez, il y a eu beaucoup de débordements et de folies qui ont pris place dans le corps de Christ au nom du Saint-Esprit, particulièrement dans nos milieux pentecôtistes. Et je tiens à vous rassurer dès le départ de cette série qu'à l'Église y abondante, nous désirons juste du frais. Il y en a-tu qui votent avec moi pour ça? On veut juste du frais, juste du vrai. On ne tient pas à être une Église morte et oisive et sans intervention concrète du Saint-Esprit au milieu de nous. Je crois et j'aspire à ce que l'Église y abondante en vienne à vivre de manière beaucoup plus évidente le modèle qui nous est rapporté dans le livre des Actes. Permettez-moi d'expérimenter ce que les disciples du livre des Actes ont expérimenté et je vais être le pasteur le plus heureux sur cette terre. Permettez-moi de rêver ce matin. Est-ce que vous me permettez pendant quelques instants? Changer la batterie. Est-ce que vous me permettez de changer une batterie? Ah, merveilleux. Je ne suis pas sûr que c'est la batterie le problème. On va voir au prochain coup de clic. Donc, vous m'avez permis de rêver. C'est dangereux, ça. Permettez-moi de rêver à une Église dont les membres gagnent continuellement des âmes. Permettez-moi de rêver à une Église qui baptise des centaines de personnes, jeunes et vieux, couples, adolescents, qui veulent s'engager envers Christ. Permettez-moi de rêver à une Église dont les membres aiment vraiment la prière. Permettez-moi de rêver à une Église dont les membres entendent et obéissent continuellement aux directives du Saint-Esprit. Permettez-moi de rêver à une Église dont les membres vivent les dons spirituels, incluant les guérisons, les miracles et les délivrances spirituelles, émotionnelles et psychologiques. En d'autres mots, permettez-moi de rêver à une Église dont les membres expérimentent une vie chrétienne palpitante grâce à la personne du Saint-Esprit. Êtes-vous d'accord avec moi ce matin que ce que nous désirons à l'Église abondante, c'est de revenir à la base? On ne veut rien savoir des nouvelles modes, des nouvelles tendances in dans les églises ou des nouvelles méthodes qui peuvent être véhiculées à travers le corps de Christ. Ce que nous voulons, c'est revenir aux réalités et aux vérités du livre des Actes. Et si seulement on peut revenir à vivre ce qui se vivait dans le livre des Actes, nous serons une Église en santé. En d'autres mots, on veut revenir au vrai fondement de l'Église, c'est-à-dire à ce qu'elle est vraiment appelée à être et à accomplir. Wow! Revenons à l'essentiel et vivons l'essentiel avec passion. C'est ma vision. C'est mon rêve. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire concernant le coach Lombardi. On est rendu là, attention. Ça ne marche pas. OK. Un autre problème technique à régler. Vince, au fur et à mesure, Yves, je vais te dire quand on va mettre la prochaine diapo. Merci. Vince Lombardi. Vince Lombardi est un coach de la NFL qui était très connu. Et un jour, les Packers de Green Bay, une équipe de la NFL, de la Ligue nationale de football, les Packers étaient une église pourrie. Étaient une équipe pourrie, pardon. C'est le PowerPoint qui me dérange, là. C'était pas une église pourrie, mais c'était une équipe pourrie. C'était une équipe pourrie qui, depuis 10 ans, cette équipe de la NFL croupissait dans le fond du classement. Et un jour, alors, ils ont décidé d'embaucher ce fameux coach pour revirer la situation. Ça faisait 10 ans que ça ne marchait pas, qu'il était dans les bas fonds du classement, comme les Nordiques de Québec pendant un bon bout de temps. Quand je me rappelle, quand j'étais jeune, ils ont été longtemps dans la cave, comme on disait au Québec. Et puis, ils ont engagé le coach, M. Vince Lombardi, pour changer la situation, faire un revirement de situation. Et M. Lombardi a décidé de relever le défi, d'accepter le poste. Et alors qu'il a accepté le poste, il a commencé à vraiment interagir avec son équipe, avec ses joueurs, et les pratiques, essayer de les motiver, parler avec eux, etc. Et puis, alors, lui, il était tout enflammé, mais à un moment donné, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Et à un certain moment donné, il a réuni tous ses joueurs autour de lui, puis il a regardé ses joueurs de la NFL, ses professionnels du sport, et il a dit ceci à ses professionnels. « Les gars, il va falloir revenir à la base. On va revenir à la base de ce que c'est le football. » Il a commencé, il s'est penché, et il a pris un ballon, et il a dit ceci. « Messieurs, ceci est un ballon de football. » Quels sont ceux qui sont d'accord pour dire que c'est la base? Mais cet homme-là avait compris quelque chose, M. Lombardi. Il est reconnu mondialement pour cette phrase. « Messieurs, ceci est un ballon de football. » Il avait saisi un point important dans la vie. C'est qu'il est possible, en raison de l'usure du temps, d'en arriver à oublier les éléments de base, l'essentiel. Je crois que pour la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il est possible, avec le temps, d'oublier les éléments de base. Les éléments tellement importants de la vie chrétienne. Donc, pour tous ceux et celles qui prennent le cours sur les dons le mercredi soir, revenons à la base ce matin. Ceci est un pasteur. Pour ceux qui étaient là le mercredi soir, vous comprendrez qu'on a vu les dons de ministère mercredi dernier. Faire sa part pour bien entreprendre cette série, j'aimerais qu'on revienne vraiment à la base. Vous savez, les fondations sont toujours extrêmement importantes. Jésus même a fait référence à cela lorsqu'il a dit « Sur quoi est bâtie votre maison? Est-ce qu'elle est bâtie sur le sable ou est-ce qu'elle est bâtie sur le roc? » Parce que si votre maison est bâtie sur le roc, elle va être solide. Mais si votre maison est bâtie sur le sable, tôt ou tard, elle va s'écrouler. Pour ceux et celles qui voyagent un petit peu sur le boulevard Laurier, depuis quelques mois, on voit qu'il y a des édifices à bureaux qui sont en train de se faire construire, des tours. Avez-vous remarqué? Ça a pris des mois avant qu'on voit quoi que ce soit monter dans le ciel. Pourquoi? Parce que pendant des mois, ils ont creusé et creusé et creusé afin d'aller chercher une base solide, afin de pouvoir ériger un bâtiment à bureaux. C'est parce qu'ils savent, parce que les gens de la construction savent que tout bâtiment, pour être solide, doit absolument avoir des bonnes bases. On est d'accord avec ça? Ce matin, j'aimerais poser un fondement solide pour notre série sur le Saint-Esprit. Vous savez, parfois, ça peut sembler enfantin de revenir aux bases, mais des fois, ça peut rapporter gros. Lorsque M. Lombardi est venu et il a pris un ballon de football devant les joueurs de la NFL, il a regardé ses joueurs, « Ceci est un ballon de football. » Peut-être que les joueurs de la NFL se sont tournés les uns vers les autres et se sont dit, « On sait ça. » Mais une chose est certaine, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un changement dans l'équipe des Packers de Green Bay et ça leur a porté gros. Sous la direction de ce coach-là, M. Lombardi, les Packers de Green Bay ont collecté 6 titres de division. Ils ont gagné 5 championnats de la NFL et 2 Super Bowls. Je crois que parfois, ça vaut vraiment la peine de revenir à un élément de base. Et je crois que ce matin, on a besoin de revenir à un élément de base de la vie chrétienne. Et laissez-moi vous dire ceci, en commençant cette série. Si vous saisissez ce que je vais vous partager ce matin, et que l'Esprit de Dieu vient vous saisir, vient ancrer ça dans votre cœur au plus profond, là, ça peut bouleverser votre vie à partir d'aujourd'hui, jusque dans l'éternité. J'aimerais qu'on s'arrête ce matin à considérer une question, on va aller avec la prochaine diapo. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Avez-vous déjà réalisé qu'une des plus grandes différences entre les religions et le christianisme, c'est la réalité du Saint-Esprit? Enlever la réalité du Saint-Esprit et le christianisme devient une religion. Toutefois, saisissez le fait que le Saint-Esprit, la réalité du Saint-Esprit, et tout prend vie tout d'un coup. Il y a même dans la famille qu'on appelle le christianisme, des segments du christianisme où l'Esprit n'agit plus et où ces parties du christianisme sont devenues une religion. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, parce que l'Esprit n'est plus là. Le Saint-Esprit est tellement important. Vous savez, il y a des gens qui vivent une vie chrétienne et ils trouvent ça difficile et pénible, la vie chrétienne. Ils trouvent que c'est une vie de règles et de choses à respecter. Il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, mange pas ci, mange pas ça, va pas là, fais pas ci. Et pour eux, la vie chrétienne se résume à une banque et une panoplie de commandements. Pour d'autres, par contre, la vie chrétienne, quand on parle avec eux, c'est une vie palpitante. C'est une vie exaltante. C'est quelque chose d'excitant. C'est une aventure caractérisée par une liberté. Pourtant, on va à la même église, mais il y a quelque chose qui est différent entre les deux. Et je crois que ça a à voir avec le Saint-Esprit. Pour ma part, je me trouve dans la deuxième catégorie. Vous l'aurez deviné, je suis un peu exalté. Je vis une belle aventure avec Dieu. Et jamais je voudrais changer ce que je vis avec Dieu. Pour rien au monde. Jamais. Jamais. Lorsqu'on parlait au début, pourquoi plusieurs chrétiens semblent vivre dans l'échec constamment? Pourquoi certains chrétiens arrêtent de progresser dans leur vie chrétienne? Pourquoi certains enfants de Dieu n'atteignent jamais la maturité spirituelle, pourtant qui est voulue par Dieu pour leur vie? Pourquoi certains enfants de Dieu semblent être constamment confrontés à des embûches, des blocages et des difficultés? Pourquoi certains chrétiens, même parfois, semblent malheureux? Je crois que tout cela a quelque chose à voir avec la réalité du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Vous savez, la Bible utilise toutes sortes de symboles pour décrire le Saint-Esprit. Là, je vais avoir besoin de toi, mon frère Yves. On utilise entre autres le symbole du feu. Dans Luc 3, 16, c'est Jean-Baptiste qui dit, Jean-Baptiste leur dit à tous, « Lui, en parlant de Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et le feu nous parle de nettoyage, de purification et de zèle. Donc, on compare le Saint-Esprit au feu. On compare le Saint-Esprit également au vent. Le vent dans Acte 2, 2, prochaine diapo. Donc, le vent dans Acte 2, 2 à 4, on peut lire entre autres, « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Vous vous rappelez de la Pentecôte, ce vent qui est rentré dans la salle, dans la chambre haute. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Donc, on compare aussi le Saint-Esprit à un vent. Prochaine diapositive. On compare aussi le Saint-Esprit à de l'eau. Jean 7, verset 38 et 39, lorsque Jésus parlait dans le temple, il dit, « Celui qui croit en moi, des eaux vives, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, on compare le Saint-Esprit à des eaux vives. Et l'eau nous parle de nettoyage, encore une fois, et de le fait que ça rafraîchit, ça purifie, ça l'étanche la soif, ça rend fertile ce qui est autrement stérile. C'est un élément indispensable à la vie physique. Tout comme le Saint-Esprit est indispensable à une vie spirituelle. Amen. Sinon, ce n'est qu'une religion. Un autre symbole qu'on utilise, c'est un sceau. Dans Éphésiens 1, 13, on peut lire, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Et l'aspect du sceau, pour nous, c'est pas très... On ne comprend pas vraiment le concept, mais au premier siècle, du temps de l'apôtre Paul à Éphèse, lorsque les cargaisons arrivaient par bateau, et qu'à titre d'exemple, on débarquait du bateau une cargaison de bois, les gens comme moi, à titre d'exemple, si je vivais à ce moment-là, je pouvais me diriger au port pour voir si je voulais acheter une certaine cargaison. Et si je décidais d'acheter un lot de bois, ce que je pouvais faire, c'est tout simplement prendre mon jonc sur lequel avait un sceau, une indication, une identification, et je peux tout simplement mettre mon sceau sur le lot de bois. Et après ça, je retournais à la maison, j'envoyais mon serviteur, qui lui arrivait avec le même sceau et prouvait comme de quoi qu'il était vraiment le serviteur du maître qui était passé préalablement, et il prenait la marchandise et la ramenait à la maison. Donc, l'aspect d'être scellé du Saint-Esprit veut dire que nous appartenons à Dieu. Que lorsqu'on disait tantôt « Merci pour le Saint-Esprit, merci de l'avoir investi dans ma vie », c'est un sceau, la propriété de Dieu. Et la preuve, c'est que l'Esprit de Dieu nous est donné. Et aussi, il y a l'idée de sécurité dans le sceau. Et là, un autre symbole qu'on utilise, c'est l'huile, qui nous parle d'utilité, de fertilité, de beauté, de vie, de transformation. On parle aussi de la colombe. Lorsque Jésus est en train de se faire baptiser, vous vous rappelez, l'Esprit est venu sous une forme de colombe, qui nous fait penser beaucoup à la douceur, à la tendresse, à la paix, à la pureté, à la patience. Et un dernier symbole aussi qu'on voit dans les Écritures, c'est l'aspect de la puissance. Dans Actes 1-8, ça dit, c'est Jésus qui parle, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Mais tout ça, tout ce qu'on vient de voir là, ce ne sont que des symboles pour nous aider à comprendre ce que fait le Saint-Esprit. Et même dans nos chants à l'Église Vie Abondante, il faut réaliser que nous utilisons des symboles. Exemple, Saint-Esprit souffle sur moi, ranime la flamme dans mon cœur. Saint-Esprit souffle sur moi. Donc ici on fait référence que le Saint-Esprit est comme un vent, n'est-ce pas? Notre chant aussi, on peut parler de « Ton eau vive rassasie nos âmes. Viens, Esprit de Dieu. » Donc, on fait référence au Saint-Esprit comme étant de l'eau vive. Ce sont des symboles. Toutefois, la question demeure, Yves, prochaine diapo, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, frères et sœurs, est une personne. Donc, la question à se poser n'est pas qu'est-ce que le Saint-Esprit, mais la prochaine diapositive, mais qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui caractérise une personne? Il y a trois éléments qui caractérisent une personne. La pensée, une personne est quelqu'un qui pense. Une personne est quelqu'un qui a une volonté d'agir et quelqu'un qui a des sentiments. Et la parole de Dieu nous enseigne que le Saint-Esprit exerce sa pensée, sa volonté et il a des sentiments. On voit entre autres qu'il pense, on peut avoir une prochaine diapositive, on voit qu'il pense entre autres dans Romains 8, 27, c'est-à-dire « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, que la pensée de l'Esprit, l'Esprit a des pensées qui lui sont propres. On voit aussi que le Saint-Esprit a une volonté. Dans 1 Corinthiens 12, 11, dans le cadre des dons spirituels, pour ceux et celles qui vont être là la semaine prochaine, on va commencer les dons spirituels, mais ça nous dit qu'un seul et même Esprit opère toutes ces choses. C'est le Saint-Esprit qui distribue à chacun en particulier comme il veut. Il a une volonté, il agit. Et le Saint-Esprit a aussi des sentiments. Dans Éphésiens 4, 30, ça nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit est donc une personne. Le Saint-Esprit est, tout comme Dieu, a une personnalité. Si le Saint-Esprit est une personne, donc forcément, il doit accomplir des actions. Ça doit être une personne qui agit, qui fait des choses, qui accomplit une mission, qui a une raison d'être. Et on voit dans la parole qu'effectivement, la personne du Saint-Esprit est celle qui, entre autres, révèle dans 2 Pierre 1:21, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On peut voir également que le Saint-Esprit enseigne. Dans Jean 14:26, ça nous dit que « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, ce Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. » Il va enseigner toutes choses, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Donc, le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit aussi témoigne. Ça nous dit que c'est encore Jésus qui parle. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, dit Jésus. » Il intercède également. Dans Romains 8, 26, ça dit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » On voit aussi qu'il avertit. On peut voir dans 2, 26, Luc 2, 26, « Il avait été divinement averti, on parle de Siméon, averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu Christ, le Christ du Seigneur. » On voit aussi que le Saint-Esprit commande. Il donne des ordres. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, les disciples traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, c'est une région, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le Saint-Esprit commande. Et on voit aussi que le Saint-Esprit parle, et par-dessus tout, il parle. La personne du Saint-Esprit parle. Un exemple parmi tant d'autres, mais Apocalypse 2,7, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle. Donc, on voit que l'Esprit révèle, il enseigne, il témoigne, il intercède, il avertit, il commande, il parle. Le Saint-Esprit n'est donc pas une influence. Le Saint-Esprit n'est pas une inspiration. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, n'est pas une colombe ou un feu, une nuée, une conviction, une marchandise. Une onction. Le Saint-Esprit est une personne. Lorsque j'entends parler de transfert d'onction, viens, je vais prier sur toi, on fait un transfert d'onction. J'ai des gros problèmes avec ça. Je peux comprendre que les gens relatent le texte de l'Ancien Testament qui parle d'Élie et Élisée, mais c'est un cas bien particulier. Et il y avait des raisons pour tout ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne donne pas le libre, que là, je vais imposer mes mains, là, qu'il va y avoir un transfert d'onction. Le Saint-Esprit n'est pas un liquide qui se transfère d'une personne à une autre. Le Saint-Esprit est donné à ceux et celles qui obéissent à Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Vous rappelez-vous de Simon le magicien, dans le livre des Actes, lorsqu'il a vu Pierre et Jean de mémoire, je crois, en tout cas, je sais que Pierre était là. Pierre arrive, et là, il arrive en Samarie, il demande « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? » Et finalement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils prient pour eux, ils imposent les mains sur eux. Et Simon le magicien, voit ce qui se passe, voit Simon, Pierre, qui est en train d'imposer les mains. Et Simon le magicien voit qu'il se passe quelque chose alors que Pierre impose les mains aux gens. Et il est tellement impressionné, il y a quelque chose qui bouillonne dans son cœur au point qu'il dit à Pierre, « Je suis prêt à payer pour avoir ce que tu as. Quand tu imposes les mains, ce qui se passe, je suis prêt à payer pour avoir ça. » Et vous vous rappelez la réponse de l'apôtre Pierre? Oui, il va dire entre autres que tu peux se périr avec ton argent. Tu pensais que le Saint-Esprit peut s'acheter? Tu es complètement dans le champ, mon ami. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Dites à votre voisin de gauche et à votre voisin de droite, c'est vraiment une personne. Je pense qu'on va l'entendre plusieurs reprises, c'est vraiment une personne. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Le Saint-Esprit n'est pas une ambiance. Le Saint-Esprit n'est pas une expérience. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter et transmettre. Le Saint-Esprit est vraiment une personne qui fait partie de la Trinité. Certains théologiens soutiennent que le Saint-Esprit est en fait l'agent exécutif de la divinité, c'est-à-dire celui qui fait les choses, la personne de la Trinité qui agit, qui exécute ce que Dieu a dans son cœur. Dieu dit au Saint-Esprit, fais telle chose, crée la terre. La création, ça nous dit que le Saint-Esprit était là, présent, qu'il se mouvait. Il ne se mouvait pas parce que c'était une colombe, c'est que le Saint-Esprit est un esprit, mais une personne. Et Dieu dit que les cieux soient, que la terre soit, que l'eau soit, que la terre et l'eau soient séparées. Et qui a fait ces choses-là? La personne du Saint-Esprit qui exécute ce que le Père veut, qu'il prenne place. Et pour moi, je ne sais pas pour vous ce matin, mais lorsqu'on chantait le chant au début de la prédication, « Merci pour ton esprit », le fait que le Dieu créateur, qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, que ce Dieu-là ait investi son esprit dans ma vie, ça me bouleverse. J'ai découvert cette réalité-là lorsque j'étais jeune adolescent. Et plusieurs jeunes m'ont beaucoup agacé parce que je reviens souvent à cet élément-là, à cette expérience-là, mais pour moi, c'était une expérience qui a bouleversé ma vie. Ça fait partie de mon témoignage, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Lorsque j'étais adolescent, je suis allé chez un de mes amis non-croyants et on a décidé de jouer à un jeu de société. Et on est descendu dans le sous-sol, et alors qu'on est descendu dans le sous-sol, il y avait un pan de mur de jeu de société. Il a décidé de sortir un certain jeu de société. Il a mis ça par terre. On s'installait pour commencer à jouer. Il ouvre la boîte. Il sort la planche de jeu. Et à partir de ce moment-là, la personne du Saint-Esprit m'a averti très clairement. « Touche pas à ça. » J'avais aucune idée de ce que c'était. La seule chose que j'ai su, c'est que c'était tellement fort que ce que l'Esprit de Dieu me disait, que j'ai bondi sur mes pieds. J'ai dit, « Je sais pas ce que c'est ça, mais je touche pas à ça. » Mon ami dit, « Ouais, c'est quoi ton problème, Benoît? C'est juste un jeu de société. » J'ai dit, « Je sais pas ce que c'est ça, mais je touche pas à ça. » Puis il continue à insister pour qu'on joue. Et j'ai monté finalement à l'étage. Et j'ai regardé mon ami du haut de l'escalier. J'ai dit, « Je ne touche pas à ça. Je sais pas ce que c'est, mais je touche pas à ça. » Et finalement, lorsque je suis revenu à la maison, j'ai parlé avec ma mère. Et ma mère m'a expliqué que c'était une table de Ouija, une table d'incantation démoniaque où on pose des questions et où les esprits nous répondent. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris une chose. Il y a quelqu'un qui habite dans ma vie. Il n'y a pas une substance, une nuée, une ambiance. Il y a une personne qui habite en moi. Une fois qu'on comprend que le Saint-Esprit est une personne, frères et sœurs, ou même pour ceux et celles qui sont ici peut-être pour la première fois, alors, il faut comprendre ce qui découle de cette vérité-là. Si le Saint-Esprit est une personne, notre vie chrétienne devrait être vécue d'une manière où on considère que le Saint-Esprit est une personne. Vous savez, on peut écouter une personne. On peut se soumettre à une personne. On peut laisser une personne nous influencer. On peut attrister une personne. On peut décevoir une personne. On peut réjouir une personne. On peut tromper une personne. On peut mentir à une personne. On peut faire confiance à une personne. On peut se sentir une distance avec une personne. Et tout ce que je viens de mentionner s'applique à la personne du Saint-Esprit. On peut écouter la personne du Saint-Esprit. On peut ne pas écouter alors qu'elle nous parle, la personne du Saint-Esprit. On peut se soumettre au Saint-Esprit. On peut résister à la personne du Saint-Esprit. On peut laisser une personne, la personne du Saint-Esprit, nous influencer, ou on peut refuser son influence. On peut attrister le Saint-Esprit, ou on peut le réjouir. On peut décevoir le Saint-Esprit. On peut tromper le Saint-Esprit. Tout comme on a vu Ananias et Saphira dans le livre des Actes, qui ont trompé, qui ont menti au Saint-Esprit. Ils ont vécu des conséquences. On peut faire confiance, ou on peut ne pas faire confiance au Saint-Esprit. On peut sentir une distance avec le Saint-Esprit si on l'attriste. Avez-vous déjà remarqué à quel point ce n'est pas difficile de se faire une idée de qui est Dieu le Père? Si je vous demandais, c'est quoi l'image qui vous vient à l'esprit? Si vous fermez les yeux, vous imaginez Dieu le Père, c'est quoi l'image qui vous vient? Pour ma part, l'image qui me vient, c'est un très grand bonhomme dans un trône avec une robe au premier siècle qui dépasse et avec de la lumière autour. Est-ce que je suis tout seul à être comme ça? OK. Il y en a d'autres qui sont comme ça? Super, vous êtes très spirituel, c'est bien. Pour les autres, je ne sais pas si votre Dieu est tout petit, mais moi, je l'imagine très grand. Si je vous dis, comment imaginez-vous Jésus? C'est quoi l'image qui vous vient? Sûrement une image d'un film que vous avez vu sur Jésus, Jésus de Nazareth, ou Jésus, j'espère pas Jésus de Montréal quand même, là. Mais vous avez une image qui vient, hein? Mais si je vous pose la question, quelle est l'image qui vous vient quand on parle du Saint-Esprit? Colombe? Pas évident, hein? Pourquoi? Il y a deux raisons qui expliquent ça. Deux raisons qui expliquent ça. Pourquoi c'est si difficile de se faire une idée claire du Saint-Esprit? Première raison, c'est que tout au long des Écritures, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les opérations, ce que le Saint-Esprit fait, sont invisibles, secrètes et internes. C'est très discret. Et deuxième raison pourquoi c'est difficile de se faire une idée du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Ou ne se présente pas lui-même. Il vient toujours au nom d'un autre et ou comme le représentant de quelqu'un d'autre. C'est comme si le Saint-Esprit est caché derrière la personne de Jésus-Christ et dans les profondeurs de notre être intérieur. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le Saint-Esprit n'attire jamais, je vais répéter mon mot, jamais l'attention sur lui-même? Avez-vous déjà remarqué ça? Regardez ce que Jésus disait dans Jean 14, 26. Mais le Consolateur, c'est Jésus qui parle. L'Esprit Saint que le Père va envoyer en mon nom, ce Saint-Esprit-là va vous enseigner toutes choses. Il va vous rappeler tout ce que moi, Jésus, je vous ai dit. L'autre verset nous dit, Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, le Saint-Esprit va rendre témoignage de moi, Jésus. » Encore une fois, c'est comme s'il est effacé. Le Saint-Esprit, il vient, mais il va parler au nom de Jésus, il va rappeler ce que Jésus a enseigné. Il ne parlera même pas de lui-même. Le prochain verset, c'est encore Jésus qui parle dans Jean 16, verset 12 à 15. Ça dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Il parle à ses disciples. « Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Vous n'êtes pas en mesure de saisir toutes ces choses-là. Mais quand le Consolateur sera venu, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, lui et le Saint-Esprit vont vous conduire dans toute la vérité. » Écoutez bien ce que Jésus dit. « Car le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. » Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Mais le Saint-Esprit dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit va me glorifier. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi, dit Jésus, il va vous l'annoncer. Tout ce que le Père a est à moi, dit Jésus. C'est pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Mes amis, est-ce que vous réalisez à quel point le Saint-Esprit joue un rôle effacé? Le Saint-Esprit attire toujours l'attention des gens sur la volonté de Dieu et sur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Le Saint-Esprit, c'est son rôle. Il vient convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Et combien de personnes parmi vous m'avaient dit, lorsque j'étais jeune et qu'au temps de Pâques, on faisait penser à la télévision Jésus de Nazareth, j'étais fixé, à chaque année j'écoutais ça, parce que j'étais attiré. Et j'aimais la personne de Jésus. Il y avait quelque chose qui m'attirait. Il fallait pas que je manque Jésus de Nazareth à chaque année au temps de Pâques. Plusieurs personnes parmi vous m'avaient partagé ça. Mais ça, là, c'est le Saint-Esprit. Mais jamais le Saint-Esprit est arrivé et a dit, « Hey, c'est moi le Saint-Esprit qui est là. Hey, c'est moi qui t'attire vers Jésus. » Très discret, mais très présent. Et il n'est pas seulement en train de faire d'exercer une influence sur la vie des hommes et des femmes, des chrétiens et des chrétiennes, mais je crois qu'à ce moment-ci, peut-être qu'en ce dimanche matin même, alors qu'il est présentement, il y a des hommes et des femmes envers qui le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre, est en train de les convaincre, et les gens aiment Jésus, et les gens aspirent à vivre et à connaître une Église comme l'Église vie abondante. Le Saint-Esprit est une personne. Jamais on a entendu une prophétie dire qui sortent, puis si jamais ça sort, mais c'est à vos risques et périls. Mais si un jour j'entends dans cette église, « Bonjour, c'est moi le Saint-Esprit qui vous parle », il y a des chances que je prenne le micro. Parce que le Saint-Esprit n'attire pas l'attention sur lui. Il joue un rôle discret, mais combien essentiel et nécessaire. Donc le Saint-Esprit n'est pas une personne qui... ou une influence extérieure. Mais le Saint-Esprit est une personne qui vit en nous, mais qui n'attire pas l'attention sur elle. Il est la personne qui accomplit la volonté de Dieu en nous. Parfois, le Saint-Esprit parle de la part de Dieu. Parfois, il demeure silencieux. Parfois, il nous avertit. Parfois, il nous pousse à la repentance. Parfois, il nous incite à nous humilier et à demander pardon à quelqu'un. Parfois, il nous révèle des secrets. Parfois, il identifie des choses à changer dans nos vies. Mes amis, revenons aux bases ce matin. Le Saint-Esprit est une personne. Et ça doit nous amener à nous poser des questions alors qu'on se dirige vers la fin du message. Il y a des gens dans ce lieu qui attendent la prochaine vague du Saint-Esprit. Je veux juste vous rappeler que si nous croyons vraiment ce que j'ai enseigné ce matin, ce que vous attendez, cette prochaine vague, je veux juste vous rappeler que celui qui crée les vagues habite dans vos cœurs et dans vos esprits. Je veux juste vous rappeler qu'on n'a pas à attendre une ambiance quelconque dans l'Église. Je crois que l'emphase qu'on doit mettre, c'est de réaliser que l'Esprit de Dieu est en nous. Et juste dire, où en suis-je? Où en suis-je avec le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit? Si le Saint-Esprit est vraiment en nous, laissez-moi vous poser quelques questions pour vous aider à réfléchir, alors qu'on se dirige vers la conclusion. C'est quand la dernière fois, frères et sœurs, que la personne du Saint-Esprit vous a parlé? C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit vous a averti, vous a donné un conseil? C'est quand la dernière fois que le Saint-Esprit a fait une œuvre dans vos vies? C'est quand la dernière fois que vous avez ouvert votre parole et que la personne du Saint-Esprit a pris un verset de la parole et l'a rendu vivant à vos âmes? La personne du Saint-Esprit est là. Est-ce que vous avez attristé la personne du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a eu un moment dans vos vies où vous l'avez attristé? La semaine prochaine, je vais apporter un message dans cette continuité-là, et je crois vraiment que c'est un message de la part du Seigneur. Que cette Église puisse réaliser ce matin que le Saint-Esprit est une personne. On ne peut pas jouer avec le Saint-Esprit. On ne peut pas tromper le Saint-Esprit. On ne peut pas, en passant, si vous voulez vraiment connaître une vie chrétienne palpitante, vous ne pouvez pas utiliser Dieu juste comme un assaisonnement dans votre vie. Si vous voulez vraiment vivre une chrétienne palpitante, il faut que le Saint-Esprit et la personne de Dieu lui-même aient toute la place, que vous lui ayez donné votre vie, que tous vos projets d'études, vos projets de vie, vos rêves, vous les remettez à Dieu et vous dites, « Je veux vivre pour toi désormais. » À ce moment-là, l'Esprit de Dieu va commencer à faire quelque chose dans vos vies. Mais si vous voulez seulement un Dieu, un petit Dieu que vous pouvez incorporer à votre vie, qui va faire partie de tout un lot de choses dans votre vie, vous ne verrez jamais l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans vos vies. Mais la journée que vous allez vous humilier et dire, « Je te donne ma vie, je me consacre à toi, je te donne tout et je vais vivre en fonction de tout ce que tu vas m'enseigner, tu vas me dire, tout ce que tu vas me dire de faire, je vais le faire. Hein. » À partir de ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer à parler à ton cœur. Dieu n'a jamais été appelé à être un assaisonnement dans nos vies. Être appelé le centre même, le point central de nos vies. On a été créé pour ça. La différence entre un chrétien qui vit constamment des obstacles, toutes sortes de difficultés, qui a arrêté de grandir dans sa foi, a tout à voir avec la façon qu'on interagit avec la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est dans la volonté parfaite de Dieu que vous croissiez spirituellement. Si vous sentez que vous êtes dans une léthargie, que ça n'avance plus depuis des années dans votre vie chrétienne, ça a à voir avec la façon que vous interagissez avec le Saint-Esprit. Vous prenez les choses pour acquis, ou il y a peut-être arrivé un moment dans votre vie où que vous avez décidé de prendre la mauvaise décision, alors que l'Esprit de Dieu vous disait d'aller dans une autre direction. C'est quand la dernière fois où le Saint-Esprit vous a demandé de sortir de votre barque, de votre zone de confort. Ce matin, je vais vous poser une question très pratico-pratique. Et on va aller avec la prochaine diapositive, Yves. Si vous aviez ce matin à prendre le crayon qui est à l'écran et à mettre un X sur cette échelle de 1 à 10 en ce qui concerne votre interaction avec le Saint-Esprit, où metteriez-vous votre X? Ça, c'est entre vous et le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à ne pas culpabiliser, juste à être conscient. Et à dire, pour être franc, pasteur Benoît, peut-être il y a des gens ce matin, si on pouvait avoir une conversation ensemble, vous me diriez, pour être franc, pasteur Benoît, je ne mettrais pas plus qu'un 2 ou 3 en ce qui a trait à l'interaction avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit me parle, que moi j'obéis. Il me semble que ça fait longtemps qu'il ne se passe plus grand-chose dans ma vie chrétienne. Au moins de constater où on en est, c'est déjà très positif. Et dans les prochaines semaines, par la grâce de Dieu, j'espère que votre esprit et que l'esprit qui habite dans vos vies va vous amener à réengager le processus et à redécouvrir cette interaction avec le Saint-Esprit. Amen. La personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une ambiance, une influence, une onction qu'on peut transférer. Le Saint-Esprit est donné à tous ceux et celles. La personne du Saint-Esprit est confiée, est investie dans le cœur des gens. qui obéissent à Dieu et qui fait de Dieu leur priorité. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Et notre frère Yves, on va rechanter le chant qui dit « Merci pour ton esprit ». Et puis, on va terminer dans quelques instants. Alléluia. Merci pour ton esprit, Seigneur. Ce matin, ce que j'ai fait, j'ai simplement posé une fondation. Dites avec moi, fondation. Fondation. Sur cette série sur le Saint-Esprit est une personne. Et il est vrai que lorsqu'on s'approche de Dieu et que le Saint-Esprit commence à faire une œuvre en nous, il est vrai que lorsque l'Esprit de Dieu fait une œuvre en nous, il peut y avoir toutes sortes d'émotions qui soient suscitées de ça. Il est vrai qu'il peut y avoir toutes sortes même de réactions physiques qui soient là. Mais quand ça vient vraiment de l'Esprit de Dieu, c'est correct, là. Je l'ai dit, moi, j'aspire à tout ce qui est du livre des Actes, je veux vivre ça, là. Miracle, guérison, prodige, etc., délivrance, d'esprit démoniaque. On est une église qui croit à toutes ces choses et nous voulons les revivre. Mais ça va penser, et tout ça va être expérimenté, va être vécu lorsque les gens de l'église Dieu abondante vont revenir à l'essentiel et vont dire, vont réaliser, le Saint-Esprit est une personne. Où en est mon interaction avec le Saint-Esprit? Est-ce que je me sens déconnecté? Est-ce que je me sens connecté? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à mon cœur? Ou s'il ne parle pas, pourquoi il ne parle plus? Pourquoi il ne parle plus? La semaine prochaine, on va toucher encore plus à ce sujet-là. Pourquoi je me suis arrêté dans ma marche avec Dieu? Alléluia. On peut juste pencher nos têtes, fermer nos yeux juste avant de conclure avec un dernier chant. Esprit de Dieu, alors que nous sommes dans ce lieu, tu es là. Tu es là dans nos cœurs, dans nos vies. Dès le moment qu'on a donné vraiment notre cœur à Dieu, tout ce qu'on était, notre vie en entier à Dieu, ton esprit, Père, est venu dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, il est là. Je te prie, Père, pour ma part, j'imagine que pour mes frères et mes sœurs, c'est la même chose. Je veux apprendre à interagir avec le Saint-Esprit. Je veux apprendre à être attentif à sa voix, à être obéissant. Ce matin, nous réalisons que tu as investi une personne dans nos cœurs. Et que cette personne-là est très discrète, est effacée en ce sens qu'elle n'attire pas l'attention sur elle, cette personne-là. Mais elle nous enseigne, elle nous dit tout ce que tu veux nous dire, ça passe, et c'est Saint-Esprit en nous qui va nous témoigner à notre esprit ce que tu veux nous communiquer. Combien est importante notre interaction avec la personne du Saint-Esprit, d'être à l'écoute de sa voix. Parce que de ça découle une vie fructueuse dans l'esprit. De ça découle le fruit de l'esprit. Père, ce matin à l'église y abondante, je prie que chaque personne puisse se joindre à moi et simplement dire merci pour ton esprit. Et nous voulons apprendre à la respecter. Chantons-le une dernière fois, puis après ça, on va aller dans le chant. Yes, accompli.